Bonjour et bienvenue dans la deuxième de Bain de friture.
Aujourd'hui, nous allons vous parler de services publics et revenir sur la notion d'État-providence avec nos deux invités en plateau.
Nous aurons également une petite pastille sur l'État policier.
Mais tout d'abord, nous partons pour un micro-trottoir dans les rues de Saint-Nazaire.
Décembre 2022, pour Bain de friture et sa spéciale service public, du côté de la CPAM, de la CAF et du Pôle emploi.
Pour vous, c'est quoi un service public ?
Pour moi, un service public, c'est un service qui est payé par le tour. Son travail, c'est de faire en sorte de rendre service au public, justement, comme ils le disent. Ça veut dire que tout ce qui est administratif, c'est lui qui s'en occupe, enfin, tous ces trucs-là, quoi, en fait.
Et vous attendez quoi, vous, de ces services-là ?
Moi, j'attends que quand j'en ai besoin, que ce soit fluide, que ça patine pas pendant des mois et des mois, puis qu'on se retrouve... des galères, je vais vous donner un exemple précis. Voilà, moi j'ai eu un accident de travail. Là, pour pouvoir me faire payer, il a fallu que j'aille demander des attestations à mon employeur. L'employeur, il m'envoie des attestations. Et à chaque fois que j'arrive ici, il manque une information dessus. C'est la troisième fois que je viens. Et pendant ce temps-là, moi, les factures, elles s'accumulent et l'argent ne tombe pas. Donc, voilà quoi. Donc là, c'est un cas où c'est de la merde.
Ça marche pas bien.
C'est de la merde. La pause, c'est même pas la peine. T'attends pendant des kilomètres et dès qu'ils te reçoivent, c'est même pas avec le sourire, rien du tout, ils te reçoivent. Alors, les services publics, je suis désolé, ils marchent pas correctement parce qu'ils ne peuvent pas marcher correctement. On surcharge les agents de travail et derrière, il n'y a aucun fond. Et les fonds, ils partent où ? Dans les intérêts. Parce que quand on nous dit que la dette s'envole de tant de milliers d'euros par seconde, c'est pas vrai. Le principal, lui, il bouge pas. C'est les intérêts qui tournent. Et les intérêts, ils n'arrêtent pas de tourner et de flamber. Donc, c'est un cercle vicieux. On ne s'en sortira jamais tant qu'on restera dans un système comme ça. Parle d'un Nazérien qui habite à Saint-Nazaire, dans le petit quartier de Préséga. Voilà.
On est devant la CPAM avec une personne, une Nazérienne, qui vient à la CPAM par rapport
SDF,
à...
SDF, voilà, à la rue. Parce qu'on héberge les hommes à Saint-Nazaire au foyer Blanqui et les femmes inversent dehors. Et moi, on m'a violée, j'ai pris un coup dans le ventre et ma copine, pareil, elle s'est violée. Et nous, on reste dehors. Et les hommes, maintenant, ils sont à l'hôtel. Donc c'est le monde à l'envers.
Et au niveau du service public, comment tu te sens accompagnée par rapport à ta situation ? Quelles institutions sociales te suivent et t'accompagnent ?
La fraternité et le trait d'union. Heureusement qu'ils sont là pour moi.
Ça, voilà. C'est des associations,
c'est pas des services d'État.
Non, sinon, ceux qui sont avec les gilets rouges, tout ça, là, qui m'aident, eux, ils m'accompagnent. Heureusement qu'ils sont là.
Tu parles de la médiation sociale ?
Voilà.
Et au niveau de la CAF, de la CPAM, de l'assistante sociale ?
L'assistante sociale, oui, elle m'accompagne. Elle, ouais. Okay. Et là, je vais aller maintenant, je vais aller voir la CAF, parce que j'ai pas eu la hache, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai jamais eu.
Là, tu sors de la Sécu, là ?
Ouais.
Et alors que.
Oh non, ils ont pas le temps, pas le temps.
Ils ont pas le temps ?
Non, et je suis dans ma voiture, je vis dans ma voiture. J'ai même pas les lunettes, on m'a tout volé. Et lui, elle me dit, non, j'ai pas le temps. Le monsieur, il m'a quand même dit, écrire ça, hop, j'ai écrit. Et en fait, il y avait une case où sa collègue, elle a oublié, en fait.
Ah, et ton dossier, il a été mal rempli ?
Ouais. Sa collègue, elle a fait une croix. Faut se revienne la semaine prochaine. Et là, faut que je paye. Je prends l'argent où ? Je suis à la hache, donc je vais faire la manche.
Et ton assistante sociale, elle peut pas débloquer un fonds spécial en attendant ?
Non.
Je vais faire une aide financière ?
Ouais, je vais la voir hier, je vais la voir tout à l'heure. Là. Ouais. Elle m'a donné les tickets pour le bus, quand même.
C'est tout. Ouais.
Parce que ton hache, elle est pas tombée là, c'est ça ?
Non. Ouais. Et c'est tombé le 2 pourtant.
Oui, à cause
moi,
du dossier mal rempli.
J'ai pas ce courrier, moi, j'ai rien. Moi, je suis dans ma voiture, j'ai même plus de chauffage, j'ai plus rien.
Ça veut
je
dire.
Suis asthmatique.
Ouais, ça veut dire que là, sur une situation comme ça prioritaire, il n'y a rien qui se débloque pour toi.
Moi, j'ai envie de mourir, en fait.
Et au niveau de la CAF, aujourd'hui, là, vous êtes venue pour... vous êtes satisfaite du service rendu aujourd'hui ?
Oui, par contre, oui. Parce que moi, je viens du 93, pour le coup.
Ouais.
Ça va peut-être être bizarre à dire, mais j'ai pu avoir des vraies infos et puis une vraie discussion.
que vous n'aviez
que
pas
je n'avais
93.
Pas. Bah, par exemple, là, on a découvert qu'il y avait un courrier qu'on m'avait envoyé en 2019, auquel j'avais répondu, mais qui n'a pas été pris en compte.
Okay. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que la travailleuse sociale de la CAF du 93...
Elle l'a pas enregistré. Et en fait, quand on appelait, c'était très impersonnalisé, et puis c'était très flou, et très... Et puis c'était par exemple prendre une journée de congé pour venir faire la queue, parce qu'il y a beaucoup moins de monde ici que dans le 93, faire la queue. Là, je vois que les gens se font un peu aider dans le couloir, à aller sur la plateforme, etc. Chose que j'ai jamais vue avant.
Ouais. Presque on a de la chance ici, quoi.
Je pense, ouais. Ouais, après, le fond reste le même quand même, de la baisse des aides, le chômage qui est en train de se faire détruire, tout ça.
Et pour vous, s'il y a une ou des solutions, ce serait lesquelles, laquelle ?
Une solution, ce serait de revaloriser le service public et puis aussi arrêter de vider les caisses des aides, en fait, des services publics. C'est le truc de l'impôt, il faut arrêter de baisser les impôts pour les plus riches et puis pour les entreprises, quoi. Ouais. Là, la CVAE qui a encore été supprimée.
C'est quoi ça ?
Je crois que c'est une taxe des entreprises qui a été encore supprimée. Et donc, les mairies et les villes, elles n'ont plus de sous, en fait, pour payer. Il y en a qui se posent la question, supprimer des centres de loisirs ou des piscines ou des choses comme ça, des services qui sont indispensables. Enfin, indispensables. Ça va après la santé, ça va après les transports, bien sûr. Ouais.
Ok. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne fin de journée. Bienvenue dans le 44.
À part une État emploi et Happy, il n'y a que eux qui m'aident. Hein. Sinon, la CAF, ils ne m'ont pas vraiment aidé. Ils m'ont laissé pendant 4 mois le RSA attendre pour un code postal qui manquait juste. Donc,
parce que tu changeais de département ?
Ouais, j'ai changé de département. Du coup, le temps que mon dossier arrive et tout, j'ai fait ma demande de RSA comme il m'avait demandé et tout. Et j'ai pas eu de nouvelles pendant 4 mois. Si moi, je ne serais pas allé à la CAF, j'aurais pas touché le RSA. En fait, ils m'ont encore fait attendre pour un code postal juste qui manquait. Quoi. Du coup, voilà.
Du coup, t'avais aucune ressource ?
J'avais aucune ressource pendant plus de 4 mois, là. Et du coup, je me suis débrouillé comme j'ai pu.
Quel âge tu as ?
28 ans.
Et l'assistante sociale, qu'est-ce qu'elle disait ?
Rien. Aucune assistante sociale qui m'a aidé. Même au CSAS, les rendez-vous, c'était super long. Personne ne m'a aidé. C'est moi qui suis allé à Pôle emploi, qui ai trouvé l'emploi chez Happy. Et qui, maintenant, avec un suivi Happy, il n'y a que Happy qui m'aide vraiment à me donner des rendez-vous, tout ça et tout, pour les emplois. Il m'aide à trouver un autre truc pour
c'est
le
quoi,
permis.
C'est une association ?
C'est un truc de réinsertion. Dans le monde du travail. Du coup, tu travailles pour eux, 29 heures semaine. Et à côté, quoi, ils t'aident à trouver ces 6 mois renouvelables sur 2 ans. Et ils t'aident à faire ton projet professionnel, trouver un CDI ou une formation, suivant ce que tu veux faire. Quoi.
Ça, c'est privé ou public, Happy ?
Non, c'est l'État qui fait ça. C'est la région quoi, qui fait ça. Ils ont des financements par l'État, tout ça.
C'est une agence d'intérim d'insertion non. sociale ?
Oui, il y a le côté ça, mais il y a aussi le côté que réinsertion. Il y a les deux. On c'est peut ça. Par exemple travailler juste 3 heures dans le mois pour eux ou comme ça dépend de vous en fait, de ce qu'on a envie.
Ouais. Donc en gros, t'arrives à avoir des droits sociaux
grâce
quand
à moi.
Tu bosses.
Voilà,
c'est ça que ça veut dire.
Exactement.
Si t'arrives à bosser,
comme le
t'as
foyer
des
jeune
droits.
Travailleur, là j'ai eu le logement parce que j'avais le contrat Happy, sinon j'aurais rien eu. Et même un FRR, tout ça, rien du tout. C'est même, ils t'orientent pas vers Happy par exemple. Moi, Pôle emploi, j'y serais pas allé, j'aurais pas insisté pour avoir un emploi ou quoi. Il ne m'aurait pas parlé d'Happy, même j'étais même pas au courant que ça existait. Mais c'est malheureux que ça soit un truc de réinsertion professionnelle qui t'aide plus que quand t'es en galère que. Bon ça va, moi j'ai pas baissé les bras, mais il y en a d'autres qui baissent les bras et je comprends pourquoi hein, en vrai. Moi je vois, j'ai galéré de fou. Hein. Donc voilà.
Bonsoir, je suis service civique de chez Pôle emploi. Qu'est-ce que je pense du service public, c'est ça ?
Ouais.
En France ? Je pense qu'il est bien, mais ça pourrait être mieux.
Okay. Qu'est-ce qui pourrait être mieux ?
Le service en général. Et puis.
C'est quoi pour vous un service public ?
C'est faire ce dont quelqu'un a besoin, c'est répondre à sa demande.
Ouais.
C'est ça ?
Bien sûr.
Et c'est pas mal déjà, je pense.
Bah oui.
Répondre à la demande des gens, oui.
Des fois, on entend parler que le service public est en crise. Est-ce que ça vous parle ?
Je ne suis pas du tout au courant. Peut-être. Hein. Je serais peut-être mieux payé si ce n'était pas la crise. Mais je n'étais pas au courant, non.
Parce que vous, du coup, vous faites quoi ici ? C'est quoi votre mission ?
Moi, je fais des... J'aide les gens à faire leurs allocations, à toucher Pôle emploi, à faire leurs papiers, tout ça. Je suis à l'accueil, en gros.
D'accord. Et pourquoi vous n'avez pas été embauché sur un contrat normal et que vous êtes en service civique ?
Ah, parce qu'on m'a juste proposé un service civique, on m'a pas proposé de contrat pour l'instant. Et que je compte pas faire ça toute ma vie. Donc.
C'est qui vous a orienté sur un service public ?
Pôle emploi.
Sur un service civique ?
Pôle emploi.
Pôle emploi lui-même.
C'est ça. J'ai été contacté par Pôle emploi pour travailler chez Pôle emploi.
Et du coup, c'est que vous travaillez combien de temps ?
Ah, c'est 8 mois là. J'ai commencé en septembre et ça finira bientôt.
À temps plein ?
Non, 24 heures semaine.
D'accord. Voilà. Et vous touchez une rémunération de
600 euros par mois.
D'accord.
Okay. La crise, hein, notamment. Je crois que j'ai tout dit à peu près.
Ok,
merci beaucoup. Le prochain son, c'est une reprise, faut toujours en faire une. Du coup, ça remonte à 95. On va chanter tous ensemble, machin, tout ça. Ok, allez. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans.
Alors après cette petite musique, nous voilà de retour en plateau avec aujourd'hui nous avons Marie, travailleuse à la CPAM et déléguée syndicale, et Jean-Michel, professeur de sciences économiques et sociales et militant à la CGT.
Salut.
Salut.
Bonjour. Et du coup, dans cette émission sur l'État-providence et la casse des services publics, est-ce que Jean-Michel, tu pourrais nous recontextualiser un peu l'État-providence, comment c'est né, ce que ça veut dire, ce que ça recouvre, sa fonction ?
C'est très large ce que sur la question. Alors, premièrement, en fait, il y a plusieurs éléments. Sur l'État-providence, on peut très bien avoir ce que tu dis, les services publics. Et aussi les transferts monétaires ou en nature hein, que réalise l'État. Alors si on fait un tout petit peu de détour historique, de fait, c'est pas une des missions de l'État. Historiquement, l'État, c'est pas du tout sa mission de prendre soin de sa population. Au sens où on entend la soigner, lui faire des retraites, l'éduquer, etc. Ça, jusqu'à la Révolution, au moins jusqu'à la Révolution française, ça s'est pris en charge soit par le clergé, donc par l'Église. L'éducation, c'était l'Église, un peu la noblesse. Soit c'était pris en charge par les corporations. C'est-à-dire, c'est une forme d'auto-organisation par les corporations. C'est-à-dire que jusqu'avant la loi Le Chapelier en 1791, hein, qui est la grande loi bourgeoise de la Révolution française, qui est aussi une grande révolution bourgeoise. En fait, les métiers sont organisés en corporations, et dans chaque corporation, il y a un certain nombre de règles très précises, y compris de protection de droit du travail, de port du gant, de qui a le droit de faire ce métier, dans quelles conditions, quels sont les taux de rémunération, etc. Toute une organisation, si en exagérant, on pourrait dire un peu du droit du travail, mais qui n'est pas du tout le droit du travail qu'on connaît, qui existe. Et la loi Le Chapelier qui interdit les corporations, qui est la loi donc, qui crée le marché libre du travail. Tout ça est aboli à partir de la Révolution française. L'État, lui, ce qu'on appelle l'État, globalement, c'est uniquement à ce moment-là l'État bourgeois. Vraiment, au premier sens du terme, tenu par uniquement la bourgeoisie. C'est ça qui va peut-être un peu changer après, mais sorti de la Révolution française, on est sur un État bourgeois. Quel est son problème sur l'État bourgeois? C'est l'ordre. Donc comment je fais? Je maintiens l'ordre, donc je me concentre sur les fonctions régaliennes de l'État, l'armée, lever la conscription, maintenir le calme dans les faubourgs, faire de telle sorte que s'il y a des révoltes ouvrières, elles débordent pas trop, et si elles débordent un peu, c'est pas très grave, on envoie la maréchaussée qui tire dessus et qui bute et qui butent les ouvriers, ceux qui se révoltent. Alors c'est pour ça que tout le 19e siècle, on a un certain nombre de révolutions. Donc l'État, en fait, il y a toute une période où en fait, l'État ne se préoccupe pas vraiment de prendre soin de sa population au sens moderne qu'on l'attend, c'est-à-dire santé, retraite, etc. Et qui délègue, qui laisse un peu dans un entre-deux, qui laisse les anciennes formes de solidarité perdurer, la solidarité familiale, la solidarité liée à la religion, notamment au catholicisme en France. Et il y a quand même aussi un système d'auto-organisation ouvrière. Mais bon, les corporations sont interdites, donc il n'y a pas de droit de coalition, notamment chez les ouvriers. Droit de coalition, c'est-à-dire droit d'association de se regrouper. Mais il existe quand même des sociétés de secours mutuels, ce qu'on appelle aujourd'hui les mutuelles, mais qui existent comme ça, mais qui sont globalement réprimées. Donc elles sont aussi régulièrement, elles sont dissoutes. Sauf à partir de 1852, finalement, on va avoir une récupération globalement par l'État des mutuelles. Donc on va avoir des mutuelles qui sont... on va avoir une division entre les mutuelles qui sont les mutuelles approuvées, c'est-à-dire celles qui sont approuvées par l'État, qui leur donnent un certain nombre de facilités, mais bon, elles doivent être globalement sous contrôle de la bourgeoisie. Et celles qui vont être les mutuelles qu'on va appeler les mutuelles autorisées. C'est celles qui n'ont pas signé un pacte avec l'État, et notamment avec l'État bourgeois, qu'il faut toujours qualifier, qui vont être plus ou moins réprimées. Donc on va avoir un certain nombre de mutuelles, mais ça va quand même permettre, il va quand même avoir un développement du courant mutualiste, en lui enlevant toute sa potentialité subversive. Mutualiste, on s'entraide, mais on ne va quand même pas renverser l'ordre social. Il faut toujours penser que l'État a intérêt à perpétuer un certain type d'ordre social, puisque c'est de là qu'il va tirer sa puissance, notamment en termes numéraires, en termes de contrôle de territoire, etc. Je dis ça, c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un État qui est un État capitaliste. Le problème, ce n'est pas l'État, c'est l'État capitaliste. Donc on est dans un État capitaliste. Pourquoi ? Ben, parce que la puissance de l'État, on voit bien quand on vend des armes à l'étranger, ben c'est lié à une fusion, une connivence, je ne sais pas comment dire, à un appui mutuel entre l'État et les capitalistes. Tout comme à la construction des marchés, c'est l'État qui construit les marchés pour les capitalistes. Donc on est là-dessus. Donc pour reprendre un peu l'histoire, donc on voit bien que tout au cours du 19e siècle, l'État, il ne prend pas vraiment en charge ça. Là, en concurrence, il y a d'autres personnes qui sont en concurrence sur sur ce secteur des soins. Et donc, il va falloir attendre. En fait, notamment, là, on va voir vraiment le développement d'un État social au sens où on l'entend de manière moderne, mais c'est après la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on s'entretue. Je ne vais pas le dire, c'est pas on s'entretue. Les capitalistes envoient la population par millions s'entretuer au nom des intérêts des capitalistes. Et donc, à un moment donné, on se retrouve avec des estropiés. On se retrouve avec aussi des déficits de naissance. On se retrouve avec des classes creuses. On se retrouve avec des destructions, des problèmes de logement. Et donc, à un moment donné, la question se pose, mais qu'est-ce qu'on va faire de cette population, sachant que on a bien vu que sur la Première Guerre mondiale, il y a un conflit de puissance, et qu'il faut quand même finalement prendre bien soin de la population pour pouvoir la remettre sur les champs de bataille. Il faut être assez clair. Il y a ça. Et donc, par exemple, les assurances sociales, donc l'obligation, les assurances sociales, c'est-à-dire que finalement l'obligation de cotisation à une assurance, alors là c'était plus ou moins géré par les mutuelles et par des départements, mais est rendue obligatoire à partir des années. Les lois, c'est 1928, les lois de 1928-1930, elles vont faire ça. Elles vont donc commencer, et effectivement, là on se retrouve, on a 830 caisses différentes, gérées plus ou moins par des mutuelles, il y en a une qui est gérée par la CGT, etc. Mais globalement, ça reste encore des mutuelles, effectivement, non subversifs, à part celles, les mutuelles ouvrières, qui sont un tout petit bout, vraiment un tout petit bout, et notamment gérées par la CGT, il faudra attendre un peu plus tard pour aller au-delà. Voilà sur les assurances sociales. On pourrait parler un peu des allocations familiales, etc., mais c'est qui naissent un peu avant et qui étaient, par exemple, gérées par le patronat, qui était aussi l'idée aussi de contrôler la population et de faire ça. Je peux pour
Juste un truc, on nous dit dans les livres d'histoire que c'est, en tout cas moi c'est ce qu'on m'a dit, bah, que c'était De Gaulle qui avait mis l'État-providence en place.
De Gaulle n'est pas du tout pour l'État-providence. Ça c'est... Bon, ça c'est les contes à un peu à dormir debout, parce qu'on aime bien les grands hommes, c'est comme Bonaparte qui aurait fait le droit, etc. Bon. Oui, c'est vrai que De Gaulle, que lorsque... Ça va enchaîner hein, sur la sécurité sociale. Les ordonnances sortent donc du Conseil national de la résistance. Il y a l'idée finalement d'étendre, parce qu'en fait, avec les lois sur les assurances sociales de 1928, en fait, il n'y a que 56% de la population qui est couverte. Donc l'idée, bon, on va généraliser ça. Et donc effectivement, c'est De Gaulle qui fait ça. Et en fait, l'idée, c'est oui, on généralise, mais l'idée des gaullistes est à la manière ancienne. On va faire de telle sorte que ben, juste on s'occupe un peu de la population, parce que d'avoir une population en bonne santé, ça fait, là, on pourrait dire, ça fait du capital humain dans la concurrence internationale entre capitalistes, et donc c'est pas mal. Mais il va falloir attendre vraiment le geste révolutionnaire de la CGT, il faut le dire. Et dans la CGT, des CGTistes communistes qui vont finalement en fait essayer. Faire quelque chose qui est génial, qui finalement prend en main leur santé. Et ça, c'est très important d'avoir ça en tête. En fait, en 1946, en fait, le système de sécurité sociale qui est mis en place, donc bon, la retraite, la santé, qui petit à petit qui est plus important que le budget de l'État, c'est ça qu'il faut avoir en tête, est géré par les travailleurs eux-mêmes. Et l'important, et c'est ça le geste révolutionnaire, c'est que tout d'un coup, on arrive à prendre la valeur, parce que dans les mutuelles, il y avait quand même la participation du patronat, etc. On va réussir hein, finalement à récupérer la valeur produite par les travailleurs. La valeur, une partie, alors pas en totalité, mais une partie de la valeur produite par les travailleurs pour s'occuper de leurs problèmes à eux-mêmes. Et donc c'est ça qui est fait. Donc là, et ça, c'est pas du tout... C'est pas du tout De Gaulle, enfin ça c'est vraiment les comptes à dormir debout quoi. C'est 1946, c'est Ambroise Croizat et c'est la CGT révolutionnaire combattue dès le départ, ça faut le savoir. Quand ils veulent ouvrir des caisses de sécurité sociale, parce que c'était mis en place en 6 mois, il n'y a rien, on met en 6 mois. En fait, il y avait 830 caisses, on unifie les caisses, on fait une cotisation unique, on est combattu par le syndicalisme chrétien à ce moment-là, on sera combattu par FO après, et oui, il faut qu'il y ait complètement un syndicat à l'époque contre-révolutionnaire. Il faut avoir en tête, complètement contre-révolutionnaire. Combattu, alors évidemment, aussi par toute une partie de groupes coalisés, des médecins, d'autres personnes. Et en fait, au départ, par exemple, quand on veut mettre en place des caisses de sécurité sociale, dans des locaux qui sont vides, par exemple, ben, les mairies vont préempter les locaux pour pas qu'on ouvre une caisse de sécurité sociale. Au début, il y a le droit de le faire dans l'entreprise. Bon, mais finalement, on vous met de quelque part très loin pour pas le faire. Et en fait, finalement, c'est quand même généralisé en 6 mois. C'est construit en 6 mois à la sécurité sociale. Et ça appartient aux travailleurs parce que finalement, il ne faut que récupérer la valeur qu'ils produisent eux-mêmes.
Merci.
Du coup, je vais juste. Voilà. Quand tu dis qu'on ne l'apprend pas dans les livres d'histoire, ça va te rassurer ou pas, mais le N3S, en fait, c'est l'école des grands dirigeants de la sécurité sociale. Ils ne l'apprennent pas non plus, hein, du tout. Ambroise Croizat, ils n'en entendent pas parler dans leur école, du tout. Et j'en profite pour dire qu'il y a un documentaire, la sociale, justement, là-dessus, qui est pas mal, où on se rend compte que nos directeurs de sécu n'ont aucune idée de qui est Ambroise Croizat. C'est quand même un comble pour travailler à la sécu quoi.
Et du coup ben voilà Marie, vas-y, continue ouais. Si tu veux nous c'est bien parce qu'on apprend plein de choses qu'on a des idées reçues sur la sécu, sur l'État-providence, sur sa naissance. Et du coup ben, toi ton point de vue en tant que délégué syndical aussi CGT et puis que professionnel à la CPAM à Saint-Nazaire.
Ben moi ça va être plus je vais plus vous parler de ce qui se passe maintenant en fait à la sécu. Alors la sécu c'est pas c'est grand, il y a la CPAM, donc c'est là où je travaille, donc c'est l'assurance maladie, la CARSAT, donc c'est la caisse des retraites, la CAF pour les allocations familiales, et l'URSSAF, c'est ce qui recouvre tout ça. Et donc moi je suis essentiellement je suis à l'assurance maladie, donc je vais pouvoir vous parler plus de ça que ce que je maîtrise. Alors on n'est pas fonctionnaire, on est privé, donc de service assurant une mission de service public. Donc c'est important de le dire parce que le fait qu'on soit privé, ça a aussi des impacts sur la façon dont on travaille. Puisque tout simplement, par exemple, on a des objectifs. On appelle ça les conventions d'objectifs de gestion, qui sont qui souvent émanent en fait du plan de loi de financement de la Sécu, et ça nous dirige pendant 3 ans et on nous dit ce qu'on doit faire, quoi. Et on a des objectifs à atteindre. Donc c'est vraiment
chiffré, j'imagine.
Chiffré, ouais. Donc c'est vraiment du privé, quoi. C'est
production.
Pas production. Nos services, c'est des services, on appelle ça des services de production. On a des taux de productivité. C'est une usine, quoi.
Et nous sommes.
Alors.
Des clients.
Moi, je l'appelle les assurés, mais on entend souvent clients. Voilà. Clients dans le discours des dirigeants ou autres. On parle de clients, on parle même plus d'assurés sociaux, quoi. Donc on en est là. Alors, dans la sécurité sociale, dans son ensemble, il y a aussi une particularité, c'est qu'on est 80% de femmes à travailler dans le système de sécurité sociale, avec des bas salaires. Les salaires d'embauche, il y a 30 ans, étaient à 30% au-dessus du SMIC. Aujourd'hui, ils sont à peine au SMIC. Ils sont obligés de faire des rattrapages magiques. Donc voilà, ensuite on en est aussi toujours avec ces fameux objectifs donnés par l'État. C'est en ce moment c'est le tout dématérialisation, la numérisation, faut que tout soit informatique, on crée des automates, on crée des robots pour que ça aille plus vite, pour que on travaille plus vite. Enfin, ce qui fait que les collègues perdent beaucoup de sens au travail, ça ne fonctionne pas, donc on perd du temps. Les assurés sociaux, ils trouvent porte close dans les accueils, puisque maintenant c'est uniquement sur rendez-vous, les accueils physiques, dans la plupart des accueils. Je vais vous donner un exemple à Châteaubriant. On sait que c'est une zone précaire, où il y a le réseau internet n'est pas terrible. Il y a beaucoup de précarité. Et on a une agence à Châteaubriant. Et donc avant, il y avait ce rendez-vous et en tout venant. Aujourd'hui, elle est uniquement ce rendez-vous. Donc un assuré, s'il veut rencontrer quelqu'un de la CPM, donc qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé d'appeler le 3646, la plateforme téléphonique, qui est saturée. Donc attend 10 minutes, 30 minutes pour avoir quelqu'un, s'il a un téléphone. S'il n'a pas de téléphone, c'est le compte Amélie. Mais encore faut-il avoir un ordinateur ou du réseau. Et sinon, il est obligé de se déplacer, parfois faire 20 minutes, 30 minutes de route pour avoir un coupon, pour avoir un rendez-vous. Donc il rentre chez lui, il a son rendez-vous, il doit revenir au rendez-vous. Voilà. Et on parle bien de gens souvent malades, parce qu'on est à l'assurance maladie, ou précaires. Voilà.
Oui, moi j'interviens un peu là-dessus, juste parce que on a vécu ça à Saint-Nazaire. Là, je parle du côté assuré, mal assuré. Enfin, voilà. Et en effet, il y a quelques mois à Saint-Nazaire, on trouvait porte close, on trouvait des urnes pour mettre des rendez-vous, et on était nombreux à pas comprendre ce qui se passait, parce que bien sûr, ça tombe du jour au lendemain, t'es pas prévenu, tu sais pas ce qui se passe, et comme tu le dis bien, t'essayes de prendre des rendez-vous, enfin on se tapait des agents de sécurité à l'accueil qui permettaient pas le dialogue. Et si tu pouvais nous dire, parce que justement aujourd'hui à Saint-Nazaire, ben c'est plus comme ça, ça a été un peu comme ça. Et je crois que vous vous êtes mobilisés.
Si tu veux, au national, c'est la direction, c'est effectivement que les accueils, ils n'existent plus. Vraiment, uniquement sur rendez-vous. Ils ont profité du Covid pour accélérer ce truc. Toujours est-il qu'aujourd'hui, la direction n'en fait pas la promotion. Mais l'accueil peut être aussi sans rendez-vous. Par exemple, à Saint-Nazaire, il y a des box d'urgence qui peuvent recevoir en urgence des assurés, mais il n'y a aucune promotion faite de ça. Aucune. Sur Internet, c'est écrit sur rendez-vous. Sur la porte d'entrée de Saint-Nazaire, c'est écrit uniquement sur rendez-vous. Sauf que les collègues de l'accueil physique, ça leur convient pas, parce qu'elles ont à cœur d'aider les assurer, en fait. C'est du sens au travail aussi, c'est le sens au travail. Et donc, petit à petit, ils essayent de désorganiser les accueils pour que ça soit plus compliqué pour elles de travailler. Donc, plus ça va, plus on désorganise, on change les façons de faire, on change... Donc, au bout d'un moment, ça les fatigue. Enfin, elles ne vont pas réussir non plus à tenir comme ça des années, quoi.
Et pour que là...
Non, pour le moment, non. Mais peut-être que ça viendra. Mais le but ultime, c'est de faire partir tout ce monde et qu'il y ait un accueil limité en nombre de personnes, d'agents, parce qu'on ne recrute plus non plus. Et que ça soit, voilà, vraiment du cas exceptionnel pour qu'on reçoive les gens en accueil, quoi.
Moi, je ressens le sentiment que, parce qu'on voit à la CAF, il y a des choses un peu qui se passent de manière similaire. J'ai le sentiment que, en ce moment, que l'État, il est en train de creuser le fossé qu'il y a entre les professionnels du social et les gens, la population concernée, qui fait qu'on ne se comprend plus forcément des fois. Enfin, je veux dire, moi, je me rappelle être arrivée grave en colère devant la CPAM à un moment donné, et en fait, après, heureusement que on s'est parlé, que voilà, je sais encore parler, ou que je connais des gens et que j'ai confiance dans les gens, tu vois. Enfin, et que je suis pas complètement isolée dans ma vie, parce que je trouve que ça a des conséquences terribles sur le fossé qui se creuse entre les gens et les professionnels, entre les gens et les personnes syndiquées de l'intérieur, enfin, tu vois, ou syndicats, où tu vas entendre après, mais qu'est-ce qu'ils foutent, je comprends pas, on nous enlève nos droits, personne ne dit rien, enfin voilà. Et avec, tu vois, en fond, ben voilà, il n'y a plus de retraite, il n'y a plus de machin, donc tu vois, même nous, on va même plus aller se battre pour... tu vois, pour l'institution sociale qui crève, quoi, et puis des personnes qui font tourner ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Un peu.
Dans ma question. Ils font lentement et...
Et je me dis comment on fait...
Et sûrement, en fait, déjà, en termes d'effectifs, il y a une chute drastique des effectifs. On est en sous-effectif pour bosser. On ne peut plus bosser correctement. En arrêt maladie, les gens sont payés au bout de 2 mois, en ce moment. 2-3 mois, tu fais comment pour vivre sans, c'est un revenu de substitution. Tu fais comment pour vivre c'est plus possible, on ne peut plus bosser correctement. On ne peut plus, quoi. Mais est-ce que ce n'est pas une volonté aussi de plus faire tourner la machine?
C'est sûrement une volonté.
Moi, je pense qu'il faut remettre tout ça dans un cadre d'analyse. C'est-à-dire que ce que tu soulignes, c'est les conséquences de longue date de Juppé, 1996. Juppé qui fait les objectifs nationaux de dépenses de l'assurance maladie, je crois que c'est dire ça. Et en fait, c'est un peu avant, jusque-là, ben, en fait, on regardait les besoins de la population, puis on mettait le taux de cotisation en rapport aux besoins. C'est-à-dire que, et jusque dans les années 70, le taux de cotisation payé par les travailleurs, mais qui est une partie finalement de la valeur qu'ils produisaient, ben, allait au système de santé, et donc on suivait les besoins de la population. En fait, à partir des années 80, mais vraiment affirmé à partir de Juppé, à partir donc de 95, 96 à l'époque, on fonctionne plus comme ça. On dit que ben, c'est une dépense. Et donc on va le traiter. Mais ce qui s'est passé, le gros mouvement qui s'est passé, c'est le mouvement d'étatisation de la protection sociale. Tout à l'heure, on parlait d'État-providence. Bon. Sous-entendu, c'est l'État-providence, c'est bien, et puis l'État qui n'est pas providence, c'est mal. Non, le problème, c'est l'étatisation, par exemple, de la protection sociale. Moi, je pense que qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut commencer, premièrement, déjà se réapproprier notre histoire, et puis aussi se dire, en fait, c'est qui produit la valeur ? C'est nous, c'est les travailleurs, et donc à nous de nous réapproprier ça. Et à nous de reprendre l'offensive, et pas de se dire, on va attendre de l'État. Moi, j'attends rien de l'État, j'entends tout de la lutte. Et la lutte, comment elle passe ? Ben, par l'auto-organisation. Alors l'auto-organisation, ça peut être collectif de santé, ça peut être le syndicalisme. Je pense que le syndicalisme reste, on a quelques armes. Le syndicalisme. Pour rentrer dans les syndicats, avec toutes leurs limites qu'on les connaît, mais ouais, il faut y aller. En fait, c'est comme ça. Et effectivement, le mouvement d'étatisation, on le voit partout, on va pas se désoler. L'État, c'est l'État capitaliste, qui aujourd'hui est complètement fusionné avec la classe capitaliste. Bon, ils agissent comme des capitalistes. Et donc, soyons très clairs, et allons-y, quoi. Faut y aller, faut.
C'est, qui veut, on a arrêté d'augmenter les taux de cotisation. Ben, la première chose, ben, on redemande l'augmentation des taux de cotisation. Ça, c'est la première chose. On demande l'augmentation. Moi, je ne demande pas l'augmentation du salaire net, plus d'argent à la fin du mois. Alors, c'est bien, un petit peu. Non, mais ce qu'il nous faut, c'est l'augmentation du salaire brut.
Ben oui.
C'est ça. Le brut, c'est ce qui finance l'ensemble de la protection sociale. Notre protection sociale, pas celle de l'État et pas celle des capitalistes. Notre protection sociale. Donc à nous de reprendre l'offensive et arrêtons d'attendre, de dire ah tiens, ce serait bien que les syndicats se bougent. Les syndicats, c'est nous. Bon ben, on y va quoi.
Il faut aller jusqu'où en fait pour que les choses ils bougent. Enfin, tu vois, en ce moment, on est là, on n'entend que du 49.3 toutes les 2 minutes 30. T'as l'impression qu'on n'a aucune prise de l'extérieur comme de l'intérieur. Et j'entendais en plus, moi en faisant pareil quelques recherches, que les caisses d'assurance maladie étaient pleines. Que les caisses de retraite, ils étaient pleines, il n'y a pas de problème, et que le dernier rapport, il dit qu'elles vont être pleines encore dans une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on est en train de nous faire croire, là, tu vois, qu'il faut... Enfin, moi, j'ai halluciné sur ça, je tombais sur ça hier, en me disant, mais attends, c'est quoi ces restrictions dont on nous parle? C'est quoi ces trucs de faut travailler jusqu'à 64 ans, alors qu'on nous dit que, voilà, l'assurance maladie, la sécu, les retraites, en fait, c'est excédentaire, donc... Il est où le problème?
Le problème, c'est que c'est pour ça que moi j'en parle du cadre d'analyse. Le problème, c'est que depuis tant de temps, il y a une offensive capitaliste. Donc petit à petit, ce qu'on a réussi à sortir, on a sorti un certain nombre de choses du capitalisme. Parti du travail. Grâce aux conventions collectives, on a commencé à voir sortir par exemple le travail du capitalisme, en partie, hein, c'est jamais total, etc. Notamment parce qu'on n'était plus payé à la tâche. Ne plus être payé à la tâche, mais être payé selon des conventions collectives avec des grilles salariales, et que quel que soit le travail que tu fais à Dunkerque, si tu es soudeur, je sais pas, N2, allez, N2P2 soudeur à Dunkerque, et que tu es N2P2 soudeur à Marseille, tu es payé pareil, quelle que soit la tâche que tu fais. Ça, on a déjà commencé à sortir le travail du capitalisme. On n'est plus payé à la tâche, plus payé sur le travail concret, mais voilà, petit à petit, on a commencé à se réapproprier la valeur. Donc en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que au niveau du capitalisme, bon, ben le capitalisme, il va avancer si on ne lui oppose pas de résistance. Et puis, il faut penser que la lutte des classes, c'est pas genre, on va faire la lutte des classes un jour, et puis ça va se passer. La lutte des classes, le renversement du capitalisme, ben c'est un temps long. Et donc, il faut... ça se construit. Comment on fait? Comment ils ont fait? On parlait de 46. Ils sont combien à la CGT en 46? Ils sont 6 millions. Sont 6 millions, la population française, c'est 40 millions de personnes, sont 6 millions à la CGT. Ah oui, ça fait quelque chose. Oui. C'est-à-dire que des travailleurs, les travailleurs à ce moment-là ont décidé, ben, je parle de la CGT parce que je suis à la CGT, puis il n'y a pas beaucoup de syndicats à l'époque. Mais à l'époque, les travailleurs ont décidé de se réapproprier ça, ont décidé, oui, on va y aller, oui, on va essayer de conquérir ça, avec des dissensions, puisqu'il y a une scission de la CGT en 47, puis il y avait une scission avant, etc. Mais on y va. S'il n'y a pas d'auto-organisation des individus de manière massive, c'est pas genre on va pas être bon, on va le dire, on n'est pas beaucoup dans les syndicats. C'est pas les. Aujourd'hui, on est 600 000 par exemple à la CGT, officiellement.
À la CPAM, il y a plus.
Dont une grande partie des retraités. Mais rentrons dans les syndicats. Ah bah oui, parce que une manif, quand on va descend à 10 000, ça fait rien. On descend à 1 million ou à 2 millions, et puis on dit, on arrête de travailler.
Combien de salariés à peu près à la CPAM de Saint-Nazaire? Alors, combien de syndicats, et est-ce qu'il y en a d'autres CPAM, de syndiqués, et combien il y en a?
Alors, CPAM Loire-Atlantique, on est 1000 salariés, et on est sur deux sites, Saint-Nazaire et Nantes. À Nantes, ils sont 800, à Saint-Nazaire, on est 320.
Et vous êtes, il y a plusieurs sections syndicales à Saint-Nazaire, par exemple.
Il y a la CGT, CFDT et FO, mais ils ne sont pas représentatifs.
D'accord. Et vous êtes
En nombre de syndiqués sur Saint-Nazaire, on doit être 20. On a fait beaucoup de nouvelles, de nouveaux syndiqués en peu de temps. Mais je pense que c'est dû au ras-le-bol, en fait. Général, hein, des conditions de travail,
bien sûr.
Manque de reconnaissance salariale, perte de sens au travail, les services publics qui se les assurés qu'on met dans la merde, quoi. Donc voilà. Ça fait son petit chemin.
Bah, en tout cas, nous, en tout cas, on a été à une manifestation de la CPAM cette année en 2022. On a été rejoindre le mouvement personnellement, c'était la première fois, moi, tu vois, que je. Il y avait un petit peu de monde quand même.
Oui, oui. Plus ça va, plus les collègues descendent en manif. Donc,
Après, moi, ce que je trouvais ça bien dans le rassemblement que vous avez fait, là, c'est que c'était devant la CPAM. Donc, ça permettait aux usagers, clients, je ne sais plus comment on nous appelle là, de vous rejoindre. Et je pense que c'est là que c'est important de faire une jonction, en fait, entre les travailleurs et les bénéficiaires des services. Quoi.
En fait, à chaque mouvement de grève, on tracte devant la CPAM pour les salariés et on a aussi un tract pour les assurés, pour leur expliquer pourquoi on est en grève. En règle générale, on fait ce travail pour leur expliquer pourquoi, en fait. Ouais. On leur dit que si on fait grève, c'est aussi pour eux, en fait.
Ah, bien sûr.
Donc, c'est important, ouais, d'avoir un échange, parce que ça peut vite être mal compris, ça.
Oui, puis je pense que c'est là où on peut avoir un rapport de force un peu intéressant, quoi. Mmh. C'est que s'il y a juste les employés, les travailleurs qui font grève, qui s'amputent d'une journée de salaire par-ci, par-là, je pense que globalement, ça n'a pas changé vraiment la donne. Mmh. Si le mouvement y grossit avec les gens qui bénéficient de ces services-là et les autres, le nombre peut changer la donne, quoi. Mmh.
Et j'allais dire juste un truc, comme tu le disais tout à l'heure, sachant que la CPAM, elle n'est pas au centre-ville. Tu vois, au centre-ville direct, quoi. Enfin, moi, je la trouve un peu pas si accessible que ça. Mais comme aujourd'hui, le Pôle emploi qui est à la sortie de la ville. Enfin, je veux dire, je trouve ça pas anodin non plus qu'un certain nombre de services publics, tu commences à avoir même des fois du mal à y accéder en termes de mobilité. Ou que c'est caché à des endroits, tu sais, c'est bizarre, le bâtiment, tu le reconnais pas, le panneau, il ne l'indique pas, l'entrée, c'est pas la bonne. Enfin, c'est assez marrant aussi, ça, je trouve.
Pour l'anecdote, avant, il y avait un bus qui s'arrêtait devant la CPAM. Il a été supprimé. J'ai fait une demande il y a 2 ans de ça, auprès de la Carène, l'Estrade. J'ai envoyé un mail en leur demandant de remettre un arrêt de bus devant la CPAM, puisqu'on reçoit des gens malades.
Des anciens,
c'est galère pour se garer, ils ont pas tous des
femmes enceintes.
Et on m'a répondu qu'ils avaient fait une analyse et que le fait qu'il y ait de la dématérialisation, on aurait moins d'assurés sociaux à venir. Et du coup, il n'y avait plus d'intérêt à mettre un arrêt de bus, puisque en gros, c'était bientôt la fin des accueils physiques, finalement.
Donc, ils ont fait une analyse sur quelque chose qui n'a pas encore eu lieu.
Ah bah oui.
Et ils en ont tiré des conclusions. C'est incroyable. On met des trucs en place qui ne correspondent pas à la réalité.
Juste pour rebondir sur ce que tu disais. On fait des tracts, c'est hyper important, on fait des tracts pour les usagers et pour les travailleurs. Mais en fait, quelque chose, c'est pour ça que c'est aussi très important de faire des émissions comme ça. L'idée, c'est aussi de faire comprendre que c'est les mêmes choses. L'usager et le travailleur, c'est la même chose, et que la sécurité sociale, c'est pas l'État. La sécurité sociale, c'est nous, c'est les travailleurs qui prennent une partie de la valeur qu'ils produisent, que les capitalistes ne produisent pas. Il faut toujours avoir ça en tête. Le patronat ne fait rien de ses 10 doigts. Le patronat ne produit aucune valeur. Qui produit les valeurs ? L'ensemble des travailleurs. Très concret, très abstrait, si on voulait. Mais en tout cas, c'est les travailleurs qui produisent. Et donc, ce qui est intéressant, c'est... Vous voyez bien, avec l'offensive idéologique des capitalistes et du capitalisme, on essaye de faire une scission. Ah ben tiens, la Sécu, ça serait l'État. Et l'État, il serait dans une démarche de bonté vis-à-vis de nous. On attendrait une démarche de bonté vis-à-vis de l'État. Et donc, il ferait ça. Mais non. Notre but, c'est de se passer de l'État capitaliste et de construire d'autres institutions qui sortent de ça. Et donc, sortir, je pense qu'il y a un grand enjeu, mais ça se fait petit à petit. Tu citais la sociale. Il y a tout un enjeu comme ça, puis les gens sentent bien que le capitalisme, c'est fini. C'est derrière nous. Voilà. Oui. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus le choix. Maintenant, il faut s'en débarrasser. C'est même devenu une question de survie. Donc, mais il va falloir continuer à faire ça et puis petit à petit, finalement, se réapproprier ces institutions-là qui sont les nôtres.
Le mot de la fin pour Marie.
Vive la lutte.
Voilà. Vive la lutte.
Voilà. Parfait. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bienvenue à bord du vaisseau Kitano. Dans cette pastille, nous allons explorer l'état policier.
Si on comprend l'État-providence comme l'intervention de l'État dans le domaine social et économique, avec pour objectif d'assurer un niveau minimal de bien-être à la population, on pourrait comprendre l'État policier comme l'intervention de l'État afin d'assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux, le maintien de la paix, de l'ordre public et la protection des personnes et des biens. Or, l'utilisation du terme d'État policier désigne plutôt l'usage par le pouvoir des forces armées pour imposer son ordre et y contraindre la population d'un pays. L'exemple des dictatures autoritaires servant souvent d'illustration pour comprendre ce qu'est un État policier. Cette définition de l'État policier s'oppose à celle de l'État de droit, État dans lequel l'égalité devant la loi est supposée réelle et où les personnes au pouvoir des institutions politiques, économiques, policières, etc. sont soumises à la loi également aux autres personnes. Dans cet État de droit, la justice et la police sont théoriquement indépendantes et au service du bien commun et de l'intérêt général. Les démocraties libérales se présentent comme des états de droit garantissant les libertés et les droits d'individus égaux, leurs représentants institutionnels en parlant comme d'un modèle universel et absolu qui serait l'objectif à atteindre pour le reste des états du globe encore englués dans des régimes despotiques, obscurantistes et inégalitaires. Alors, nous sommes bien contents de faire partie de l'axe du bien qui se dresse comme un phare civilisateur au milieu des ténèbres, mais est-ce que ça ne cacherait pas un peu de démagogie sous les tapis ? Sur la page Wikipédia de l'État policier, on peut trouver une citation du juge argentin de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, Eugenio Raúl Zaffaroni. Tous les États de ce monde sont en réalité un processus de contradiction permanente entre l'État de droit et l'État de police. L'État de police reste enfermé à l'intérieur de l'État de droit, encapsulé et contenu, mais avec des pulsions constantes essayant de le perforer et, si possible, de le faire éclater. Pour ce juriste, l'institution policière et militaire a toujours vécu au cœur de l'État. Cette force armée est à l'origine constituée de guerriers armés et entretenus par le pouvoir. Elle a évolué avec la société et pu devenir un groupe social distinct et héréditaire, comme le fut la noblesse d'épée dans la société médiévale, ou un corps de fonctionnaires, comme sous la Ve République en France. Cette institution peut également prendre le pouvoir et gérer elle-même l'État, comme dans le cas des dictatures militaires, ou un territoire administratif, comme durant la guerre d'Algérie. On peut voir, dans la citation d'Eugenio Raúl Zaffaroni, le rapport de force qui existe entre un gouvernement civil et ses forces armées, policières ou militaires. L'exercice étant un équilibre des forces par intérêt mutuel. Cette mutualité d'intérêt fait que l'État protège sa police tant qu'il le peut, car il a besoin de cette force pour faire respecter ses ordres et le protéger. L'impunité des crimes policiers et militaires témoigne de la connivence d'institutions se protégeant les unes les autres. Eugenio Raúl Zaffaroni nous met en garde contre la pulsion de la composante policière à éclater l'état de droit. Cette dynamique de rapport de force trouve une illustration dans la montée en puissance des syndicats de police face au ministère de la Justice. Un reportage de complément d'enquête sur France 2, diffusé le 1er décembre 2022, décrit comment les syndicats de police sont arrivés peu à peu à imposer leur volonté et leur thématique. Dans cet extrait, Yves Lefebvre, ancien secrétaire général d'unité SGP Police Force Ouvrière, relate les négociations de salaire des forces de l'ordre en décembre 2018 avec Christophe Castaner, alors ministre de l'Intérieur.
Mais nous, on n'a pas le droit de grève. On dit attention, monsieur le ministre. Si vous lâchez pas un peu de grain à moudre par rapport à ceux qui ont permis à la République de tenir debout et à l'exécutif de continuer sa mission démocratique et républicaine, il va bien falloir passer au tiroir caisse. Et si vous passez pas au tiroir caisse, on met effectivement les policiers en croix et vous vous démerderez sans flicard pour vos maintiens de l'ordre samedi. On le fait, oui, on le fait.
Le marché est clair. Face à un ministre fragilisé, les syndicats exigent le paiement des heures sup, mais aussi 150 euros net d'augmentation par mois pour les trois quarts des policiers. Une mesure à 420 millions d'euros.
Là, on est rentré dans un combat viril, très viril. Parce qu'à un moment donné, quand Christophe Castaner me dit « Mais monsieur Lefebvre, on va aller chercher du pognon au ministère de la Santé, on va aller chercher du pognon à l'Éducation nationale, on va aller chercher du pognon au ministère de la Justice. » Et là, je regarde, je dis « Monsieur le ministre, vous allez arrêter de nous prendre pour un con. Vous allez chercher du pognon nulle part. » je me lève, je me barre, vous allez le chercher à l'Élysée, on revient dans 2 heures. Et soyez à l'heure. On est revenu 2 heures après, on avait gagné. C'est du jamais vu. On se fait remonter de 150 euros après une action de quelques jours, voire même de quelques heures, c'est du jamais vu.
Ce qui étonne dans ce documentaire, c'est la liberté de ton des représentants syndicaux, se vantant devant des journalistes d'avoir l'ascendant sur leur ministre de tutelle. C'est ce même représentant syndical qui mettra en avant son rôle dans le renvoi du ministre de l'Intérieur, remplacé par Gérald Darmanin en juin 2020. Ce nouveau ministre de l'Intérieur prend la mesure du pouvoir des syndicats et rappelle partout son allégeance et sa volonté de les servir, comme dans cette annonce sur les violences policières.
Quand j'entends le mot « violence policière », moi, personnellement, je m'étouffe. La police exerce une violence, certes, mais une violence légitime.
Cette déclaration est une véritable provocation, car elle rappelle directement les derniers mots de Cédric Chouvia lors de son interpellation par les forces de l'ordre qui ont provoqué sa mort en réalisant une clé d'étranglement. Le ministre refuse de reconnaître l'existence de violences policières abusives. Pour lui, toute violence policière serait légitime par nature. Cela va dans le sens des syndicats de police qui s'activent dans les médias comme dans les ministères pour défendre des policiers auteurs de violences et criminaliser les victimes. La réintégration de 2 policiers auteurs de violences sur un mineur âgé de 16 ans alors qu'il était menotté à un banc dans un commissariat de Pau en est l'exemple. Elle a été obtenue par Fabien Van Demelric contre l'avis initial du ministère et la décision de justice. Monsieur Van Demelric, qui vient d'être réélu à la tête du syndicat Alliance, annonçait en septembre dernier la création d'un bloc syndical regroupant 12 organisations autour d'Alliance.
Chers collègues et chers amis, aucune structure ne peut se targuer d'être ce que nous sommes aujourd'hui tous ensemble.
Fin septembre, à la Bourse du Travail de Paris, Alliance frappe un grand coup. En pleine campagne pour les élections, ils dévoilent leur coalition, un colosse qui a englouti 12 autres syndicats de police.
Je suis fier et un petit peu ému quand même, ça se voit, je tremble. Aujourd'hui, de pouvoir parler au nom de l'ensemble. Et je suis fier de cette machine de guerre en devenir, car elle sera un terrible outil au service de nos adhérents respectifs.
Si un tel rapport de force est à l'avantage de l'institution policière, c'est qu'elle est consciente de son importance pour l'État. Les gouvernements successifs ont appliqué des réformes impopulaires visant à revenir sur les acquis sociaux de la retraite, du chômage, du droit du travail et à renforcer le contrôle et l'encadrement des libertés individuelles et collectives. Il semble que le recul de l'état de droit aille de pair avec l'avancée de l'état policier comme moyen d'opposer une force physique contre les manifestants et manifestantes. La répression, particulièrement sanglante du mouvement des Gilets jaunes, s'est ainsi faite dans l'impunité des forces de l'ordre sans cesse légitimées par le pouvoir. Ce dernier garde en mémoire les samedis insurrectionnels du mois de décembre 2018 et va renforcer sa police en moyens humains, matériels et en dispositifs de renseignement via les lois de sécurité globale, de renforcement des principes républicains et de contrôle des contenus Internet. La pandémie, qui arrive en France au printemps 2020, sera l'occasion d'accélérer la mise en place de nouveaux outils technologiques utilisés par la police. Si certains ou certaines en doutaient encore, nous étions bien rentrés dans une société de contrôle.
Il n'y a pas besoin de science-fiction pour concevoir un mécanisme de contrôle qui donne à chaque instant la position d'un élément en milieu ouvert, animal dans une réserve, homme dans une entreprise, entre parenthèses colis électronique. Félix Guattari imaginait une ville où chacun pouvait quitter son appartement, sa rue, son quartier, grâce à sa carte électronique, individuelle, qui faisait lever telle ou telle barrière. Mais aussi bien la carte pouvait être recrachée tel jour ou entre telles heures. Ce qui compte n'est pas la barrière, mais l'ordinateur qui repère la position de chacun, licite ou illicite, et opère une modulation universelle.
Dans cet extrait du podcast Bookmakers de Richard Guettet, Alain Damasio cite le philosophe Gilles Deleuze décrivant cette société où l'individu est tracé à chaque instant par la technologie qu'il utilise. Ce qui est pernicieux dans la société de contrôle, c'est l'adhésion de l'individu à son contrôle vécu comme un mal nécessaire. L'État n'est pas le seul chantre de l'abandon de liberté et d'anonymat pour gagner un peu de sécurité ou de confort supplémentaire. le développement sans mesure des systèmes informatiques et de l'Internet offre nos données privées et l'intimité de nos vies à celles et à ceux prêts à l'acheter. Nourris de ces données, les algorithmes des services de renseignement et les entreprises du Big Data nous étiquettent, nous classent et nous prédisent. Les États totalitaires sont toujours des États policiers où les services des renseignements traquent et suppriment inlassablement les ennemis intérieurs. Si elle est évidente dans leur cas, cette vision paranoïaque est en fait partagée par les États des démocraties libérales. La masse de documents top secrets exfiltrés et rendus publics par Edward Snowden en juin 2013 montre que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont largement capté et traité les métadonnées téléphoniques et Internet de leur population. La surveillance mondiale globalisée se renforce avec l'utilisation des smartphones et autres appareils connectés et avec la généralisation de la télésurveillance et de la reconnaissance biométrique. Le système de crédit social mis en place à partir de 2018 par l'État de la République populaire de Chine utilise ces données pour classer hiérarchiquement les citoyens et les citoyennes du mauvais au bon et restreindre leurs droits et libertés en fonction de ce score. Cette réalité, qui peut nous paraître relevée d'une dystopie d'un roman de science-fiction, n'est pas si éloignée de nous, comme nous le rappellent Bénédicte Jeannereau, directrice France de Human Rights Watch, et Martin Drago, juriste à la Quadrature du Net, dans cette interview accordée à la chaîne Arte.
C'est sans doute la Chine qui est l'exemple le plus terrifiant de l'utilisation la plus poussée et la plus sophistiquée des technologies de surveillance de masse. C'est un véritable cauchemar dystopique, mais qui se déroule dans la réalité. Dans la province du Xinjiang, par exemple, les autorités chinoises se servent de ces technologies pour réprimer les Ouïghours et les autres musulmans. Human Rights Watch a fait un travail pionnier que nous avons publié l'année dernière et qui a révélé la conception et le fonctionnement de l'application qui est utilisée par la police chinoise pour épier les moindres faits et gestes des musulmans au Xinjiang, collecter leurs données personnelles et à partir de là organiser le plus gros programme de détention de masse que l'on connaisse. Et finalement, les outils de surveillance chinois ou d'autres outils de surveillance ont de nombreux adeptes et s'exportent très bien. On peut voir par exemple la ville de Nice, dans le sud de la France, combien c'est un petit laboratoire de surveillance de la population.
Quand on voit par exemple que des systèmes de vidéosurveillance automatisée, c'est-à-dire des détections de comportements suspects, mais qu'est-ce que le suspect ? C'est une question qui n'est pas résolue, sont déjà déployés à Valenciennes, à Nice, à Marseille, à Toulouse, on sait, avec IBM aussi. Quand on voit que des drones sont déployés un peu partout en France, quand on voit que la reconnaissance faciale commence à être utilisée, il y a des expérimentations sur la voie publique qui ont déjà été faites, comme à Nice, on voit que finalement, les démocraties occidentales, en fait, elles aiment bien ce jeu sécuritaire, et que petit à petit, on s'enfonce par la banalisation, par aussi le jeu de la peur avec le risque terroriste ou le risque sanitaire. Finalement, dans un état de plus en plus technopolicier, il va être très difficile de revenir en arrière.
Ces outils de contrôle et de régulation sont donc utilisés par des organisations affirmant leur influence et leur soft power dans un nombre croissant des pans de nos vies privées. Cette marche feutrée vers une société de contrôle total peut paraître inéluctable. Aux mains d'un pouvoir autoritaire et policier, il serait utilisé massivement contre toutes les personnes identifiées comme adversaires politiques. Mais comment y résister ?
Et pour finir cette émission sur la casse des services publics, quelques références supplémentaires pour creuser le sujet. Sur France Culture, un podcast qui date du 9 décembre, journée spéciale service public. Le CQFD du mois de décembre, intitulé « Que reste-t-il des services publics ?». Sur France Info, toujours un reportage du 9 décembre en podcast à réécouter, spécialement intitulé « La caisse des allocations familiales utilise un algorithme pour détecter les allocataires à risque », une note qui joue dans les choix des contrôles effectués. Et enfin, le dernier Cash Investigation, ça c'est disponible sur France Télé, service public, liberté, égalité, rentabilité. Libérez nos camarades.
soutien scolaire qu'ils prennent l'apéro entre amis qu'ils